Bonsoir à tous et heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année. K1K, vous êtes là, nous sommes là, on va se tenir chaud, faire circuler la parole, la culture et surtout les idées. Cette semaine, au micro de la Grande Table, vous entendrez entre autres l'anthropologue américain James C. Scott et l'économiste sénégalais Felwine Sarr. Aujourd'hui, c'est la philosophe Barbara Stiegler qui ouvre le bal avec le premier tract de cette rentrée 2021 chez Gallimard. Tract intitulé « Démocratie en pandémie ». Elle revient sur la gestion de la crise sanitaire avec une attention toute particulière à l'université, ce haut lieu du partage du savoir. Mais d'abord, la rentrée littéraire d'hiver, avant le romancier haïtien Lionel Trouillot qui sera avec nous mercredi. C'est le journaliste et écrivain Éric Fotorino qui nous emmène à Florence pour un portrait de l'artiste Marina Abramović et une réflexion à travers elle autour de la place de l'art dans nos sociétés. Son nouveau roman s'appelle Marina, il paraît chez Gallimard.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
L'art de la performance, théorie et pratique. La performance. De la performance. À la performance. Sur la performance.
Et c'est déjà une performance, celle de l'Espagnole Esther Ferrer qu'on entendait de là. Bonjour Éric Fotorino.
Bonjour Elia.
Est-ce que toutes nos vies ne sont pas des performances justement? Qu'est-ce qui distingue la réalité de la performance?
Je pense que c'est la prise de conscience du fait que nous sommes réels et que pour être réel, il faut tenir, il faut se soutenir, soutenir l'autre. Et je pense que nos vies en ce moment nous rappellent ça de façon beaucoup plus aiguë qu'en temps normal, j'allais dire, avant.
Alors c'est intéressant parce que dans ce roman, Marina A, qui paraît chez Gallimard, vous avez choisi de vous rendre au pays de Léonard de Vinci, du Caravage, de Giotto, de Botticelli, pour nous parler d'une artiste d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui les rapproche? Est-ce qu'ils font tous de l'art, au fond, ces grands peintres d'hier et cette artiste performeuse qui est Marina Abramović et dont on va parler? Qu'est-ce qu'il y a en commun entre eux?
Je pense que à première vue, on pourrait se dire qu'il n'y a rien en commun. Puisque
ce que se dit votre héros d'ailleurs.
Hein. Oui, ces artistes, on a la sensation qu'ils sont allés à la recherche du beau, d'une transcendance du réel pour nous amener à apaiser nos sentiments, à apaiser nos cœurs. Or, les performances de Marina Abramović, à première vue, disent le contraire. C'est-à-dire, c'est le corps en danger, c'est le corps mutilé, c'est le corps souffrant. Et pourtant, c'est ça qui, je crois, est pour moi un séisme. Quand j'ai écrit ce livre, je peux pas le raconter sans parler de son contexte. Ça a été un séisme de voir que cet artiste, puisque c'est une artiste, par ses performances, d'ailleurs je ne savais pas vraiment ce que c'était qu'une performance, pour tout vous dire, nous attire vers un partage, une empathie, malgré ou parce que elle exerce une violence, mais que cette violence, elle est toujours réparée.
Ça commence par de la répulsion, hein, d'abord, pour le public, pour les spectateurs de ces performances, de cette exhibition, comme vous le dites, Éric Fotorino, dans ce livre. Votre personnage, votre protagoniste, le narrateur, qui a beaucoup de vous, on l'imagine, qui est un peu votre double dans cette histoire.
Oui, les médecins orthopédistes que je n'ai encore pas
fait. Vous n'avez pas encore pratiqué. Le docteur Paul Gachet, qui est en séjour à Florence avec sa femme Maude notamment, se retrouve en fait complètement attiré par cette figure de Marina Abramović. D'ailleurs, au début, il ne la cherche pas. Elle s'impose à lui en permanence par des rencontres intempestives, hein, comme vous le racontez, avec ce visage immobile, mais qui l'appelle, qui lui crie quelque chose dans l'oreille. Il va petit à petit décider d'aller à sa rencontre. Et c'est étonnant parce qu'à travers ce roman, finalement, vous faites moins un portrait de cet artiste que l'ouverture d'un échange, hein, qui va se créer entre le narrateur, votre double, et vous, et elle. Pourquoi ce dialogue? Pourquoi vous l'avez voulu, ce dialogue?
Je crois que je ne l'ai pas voulu. Vous savez, je crois que cette histoire, elle m'a vraiment traversé comme un incendie. C'est-à-dire que ce n'était pas prévu. je n'avais pas prévu d'écrire. Il se trouve que ce roman, il est né d'une vision qui m'a complètement bousculé, j'allais dire presque terrassé, en tout cas qui apporte une fissure, Butor aurait dit une modification. Je me suis senti modifié. Et donc, comme je n'allais pas parler de moi, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, j'ai essayé d'imaginer quelle fiction je pourrais construire qui raconte ce séisme intérieur, qui est que l'art, à un moment donné, cet arc dont d'aucuns disent qu'il n'est pas essentiel, cet art peut modifier votre vie, veut vraiment la chambouler parce que il va vous chercher au plus profond de ce que peut-être vous rejetez. Et la vision qu'a le docteur Paul Gachet, qui est donc un chirurgien, donc quand il ouvre les corps, c'est pour les réparer. Et donc il est évidemment très choqué. C'est l'antithèse.
Choqué par quoi ? Par la déflagration interne qui va se produire, intime, en lui ?
Oui, à la fois par cette déflagration et aussi comme si cette femme... D'abord, il ne va pas comprendre ce qu'il voit, sur le coup. Mais comme si cette femme était une lanceuse d'alerte à sa manière, une lanceuse d'alerte sans mots, ou dont le langage, c'est son corps qu'elle va mutiler avec des couteaux, son corps dans lequel elle va tracer au rasoir une étoile communiste. Elle est serbe d'origine. Cette femme qui va manquer mourir parce qu'elle s'expose comme un objet dans un musée à Naples en 1974. Et c'est là que les gens qui viennent visiter peuvent lui faire tout ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, un des spectateurs mettra un pistolet chargé avec une balle dans le barillet et les spectateurs vont se battre pour la sauver, finalement. Elle a failli mourir de cette première grande. Et au fur et à mesure...
Oui, ça, c'était une de ses grandes performances. En fait, elle avait disposé autour d'elle, autour de quelque chose comme 70 objets.
Exactement.
Ça allait de la plume qui invitait à la caresse, au rasoir qui pouvait inviter à la lacération. Et elle raconte la réaction du public qui est autorisé à lui faire ce qu'il souhaite, ce qu'il veut.
Se déshumanise, qu'elle devient un objet. Et si vous voulez, ce qui est, je trouve, fascinant, et c'est ce qui fascine le narrateur, qui vraiment, lui, pour lui, l'art, c'est rien. L'art n'est rien du tout. Lui, c'est des gestes très concrets, rationnels, etc. Et il n'y a aucune place pour l'imagination. Et pour ce genre d'art, encore moins. C'est qu'au fur et à mesure de son parcours, elle va faire des performances qui sont beaucoup plus basées sur l'autre et sur la confiance en l'autre. Elle a un compagnon qui s'appelle Lulay, qu'elle a un allemand, qu'elle a rencontré dans sa jeunesse. Et ensemble, ils vont faire de nombreuses performances. Et trois d'entre elles sont assez saisissantes. La première, c'est lorsqu'il bande un arc à bout portant de son cœur. Il y a des microphones qui font entendre les battements de cœur. La performance dure un peu moins de 5 minutes. Et évidemment, à tout moment, on se dit, mais s'il lâche la flèche, s'il faillit, il la tue. Il y a cette autre performance où l'un et l'autre sont attachés par leurs cheveux dos à dos, donc ils sont deux deviennent un, et aussi ce fameux baiser qu'ils se donnent pendant 19 minutes où chacun respire l'air contenu dans le poumon de l'autre, mais à un moment donné il s'étouffe.
Et le mauvais air, hein, c'est mauvais pas un air vital.
Exactement. Ouais. Donc si vous voulez, c'est l'histoire de comment l'autre, je prends soin de lui, je suis avec lui, je fais attention à lui et en même temps je dépends de lui, c'est la confiance. Et ça ira jusqu'à la grande performance de 2010 au MoMA, au Musée d'Art Moderne de New York, où elle s'installe au bout d'une table et au l'autre bout de la table, comme s'il y avait avant l'heure une distanciation sociale, ou physique en tout cas, près de 750 000 personnes viendront s'asseoir pour croiser ce regard. Et donc tout passe non plus dans le corps souffrant, mais dans le regard qui va vous chercher au fond de votre âme. Et c'est tellement saisissant que regarder les autres, la regarder, c'est en soi une expérience unique.
Et sur cette performance de 2010 au MoMA de New York, vous écrivez, Éric Fotorino, « Pendant 736 heures, sans un mot, sans manger, sans boire, sans se déplacer aux toilettes, à raison d'une minute par visiteur assis face à elle, Marina Abramović accomplit ce qu'elle appela la performance la plus radicale de sa vie, un échange d'énergie intense où l'observateur devenait l'observé. Personne ne viendra, craignait sceptique le directeur du MoMA. Nous sommes à New York, ici, les gens sont trop pressés, pourquoi perdraient-ils leur temps pour ça ? Marina avait encaissé sans rien dire. Ce furent des queues interminables, des heures d'attente. 750 000 personnes prirent place face à ce regard humains, auxquels s'ajoutèrent 1 million d'internautes, des hommes et des femmes de toutes conditions, de toute origine, certains fondés en larmes, d'autres laissaient paraître un immense sourire, touchés par cet exploit d'endurance physique et mentale que l'artiste leur offrait. Elle leur donnait ce qu'elle avait de plus précieux, son attention et le temps, son temps. La performance, c'est effectivement un art à part, un art éphémère et un art du temps qui engage souvent le corps de l'artiste. On écoute Marina Abramović.
Le temps, c'est essentiel pour nous. Le temps, je pense, est important de ce moment, à ce moment dans l'histoire humaine. Parce qu'une chose que nous n'avons pas, c'est le temps. No, this was enough for my French. But what I want to say, the time is really, really important.
Oui, le temps est vraiment très important, parce qu'on ne l'a pas.
You know, there is a time. If you think about future,
si vous pensez au passé, il y a du temps. Si vous pensez au futur, il y a du temps. Mais dans le présent, il n'y a plus de temps du tout. Le temps n'existe plus. Si vous vivez dans le présent, vous vivez dans un espace hors temps. C'est incroyable de découvrir ça. Mais ça ne suffit pas d'en parler, de lire. Il faut faire l'expérience vous-même. J'ai d'ailleurs changé mon attitude face au public. Je ne le vois plus comme un groupe, mais je considère des individus. Et l'expérience à vivre, c'est un à un, individuellement. C'est pour ça que ça a marché. Chacun a pu vivre l'expérience, parce qu'on peut en parler, mais ça ne nous fait pas changer. Chacun de nous doit le vivre.
L'artiste serbe Marina Abramović, qui s'est lacérée, flagellée, congelée, enflammée, c'est une artiste totalement insensée au sens presque littéral du terme, Eric Fotorino, elle le dit ici, la présence de l'artiste, hein, l'artiste est là, l'artiste est présent.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle teste? Pourquoi elle nous teste? Qu'est-ce qu'elle cherche à provoquer en nous?
Alors, c'est vrai, l'exposition du MoMA, d'ailleurs, la performance s'appelle « The artist is present », donc c'est vraiment sur sa présence qu'on table et que se noue quelque chose. Je pense que ce qu'elle cherche, c'est l'altérité et l'acceptation de l'autre, ce qui veut dire qu'on doit soi-même aller bien pour accepter l'autre. Et si vous voulez, je crois que... Je ne suis pas sûr d'avoir compris tout ce que j'ai écrit, ça va peut-être vous faire sourire, mais je ne suis pas sûr d'avoir saisi tout ce que je voyais, ce que je sentais, ce que j'ai voulu donner à ce narrateur qui est témoin de ce qu'il voit. Mais en tout cas, pour moi, il y a un moment clé. Pour essayer de répondre à votre question. C'est un livre de questionnement, c'est pas un livre, je n'ai pas de réponse. Mais je tombe par hasard, et ça a déclenché l'écriture, chez moi, de ce roman. Je tombe presque par hasard, les hasards sont toujours un peu exagérés, sur cette photo de 1983, où on voit une femme, c'est Marina Abramović, au pied de l'escalier d'un temple. Dans la légende de la photo, je vois qu'on est à Bangkok. Et en haut de l'escalier, il y a Oulai, son compagnon, et l'un et l'autre se tendent les bras. Ils ne se touchent pas. On voit que quelque chose les empêche de se toucher, et même leurs ombres ne se touchent pas. Et cette œuvre s'appelle « L'impossible rapprochement ». Et en fait, ce que j'ai moi saisi, c'est très subjectif, très personnel, ce que j'ai saisi... C'est ce qu'elle nous disait, c'est prenez soin de vous, prenez soin de l'autre dans sa différence. Quand elle est au MoMA, elle voit des gens de toutes sortes. Et c'est parce que ça rejoint Lévinas. Ça rejoint Lévinas sur le narrateur dit à un moment donné, on pourrait construire une civilisation sur ces deux petits mots qui sont après vous. Eh bien, ce qu'elle me dit, moi, Marina Abramović, c'est que je compte moins que la relation que j'entretiens avec l'autre. Et c'est bien sûr la notion de soin, c'est la notion d'attention, qui est évidemment celle que la pandémie nous a obligés finalement à avoir, mais qui était complètement disparue, qui avait complètement disparu dans nos sociétés très individualistes, où on ne pense qu'à soi.
Voilà, l'impossible rapprochement, c'était presque prémonitoire en fait. Hein.
Oui, alors, oui, sûrement, je pense, si vous voulez, que... Comment vous dire ça? J'ai commencé à écrire ce livre il y a plus de 2 ans, en rentrant de Florence, parce que j'avais été bouleversé par ce que j'avais vu et que je n'avais pas compris. Et pour moi, l'écriture est toujours un acte d'élucidation. Je me dis, si je n'ai pas compris, peut-être qu'en écrivant, je vais comprendre mieux. Et après, j'ai laissé ce texte parce que je ne voyais plus comment je pouvais lui faire dire plus. Et c'est précisément... cet impossible rapprochement qui a relancé, qui a redéclenché chez moi le questionnement sur qu'est-ce que nous dit l'art lorsque il nous bouscule, lorsqu'il nous choque, et en même temps lorsqu'il nous tend la main. Et Marina Abramović, elle fait tout ça. Quand elle se met dans une étoile de sueur, une étoile, l'étoile communiste de Belgrade, qu'elle met au sol, qu'elle fait brûler avec de l'alcool à brûler, et elle se met au milieu nue, elle manque mourir. Évidemment, c'est quelque chose du communisme. Quand elle nettoie des os de bœuf, elle les nettoie, et plus elle les nettoie, plus elle se salit. C'est évidemment, enfin moi je l'ai vécu comme le nettoyage ethnique, c'est-à-dire que plus on nettoie ethniquement, plus on se salit. Eh bien, ça, c'est tellement fort que pour moi il n'y avait que la littérature, que le roman, pour essayer de l'exprimer imparfaitement.
Voilà ce qu'elle met aussi en partage à travers son art, Marina Abramović. La robe blanche, c'est un autre récit biographique écrit par Nathalie Léger sur une autre performeuse italienne, cette fois Pippa Bocca. Elle a été violée et assassinée en Turquie en avril 2008 alors qu'elle faisait un voyage de paix, comme elle l'avait nommé, un voyage en autostop de Milan à Jérusalem, symboliquement dans une robe de mariée. Dans ce livre paru chez Peuel, La robe blanche, Nathalie Léger retrace ce parcours. On l'écoute, elle était l'invitée de la Grande Table il y a 2 ans, Nathalie Léger.
Qu'est-ce que c'est qu'une performance ? Mille manières de le décrire, mais c'est l'irruption de quelqu'un. C'est quelqu'un qui surgit dans l'espace public, qui l'ébranle, qui l'interroge, qui l'ébranle. Il n'y a pas que les femmes qui ont posé des gestes fracassants ou tout simplement intrigants qu'on a envie de suivre, parce que soudainement, ils déplacent les choses. Mais c'est vrai que les femmes l'ont fait avec une intensité particulière. Yoko Ono, par exemple, Yayoi Kusama, enfin, elles sont innombrables et toutes passionnantes, vraiment. Mais c'est pour dire autrement une vérité, qui est une vérité à la fois une vérité de la pensée, une vérité du sentiment, et elles ne peuvent le dire que dans cette manière de s'exposer, voilà, d'exposer leur corps.
Qu'est-ce que l'art a à nous dire ? Vous parliez de cet art vigie qui nous alerte, de cet art aussi qui parfois peut réparer après avoir chamboulé. Il y a aussi à travers ces performances une quête de vérité. Toutes ces artistes ont quelque chose à nous dire d'une certaine vérité.
Oui, oui. Alors, je pense que, et en écho à ce que disait Nathalie Léger très bien tout à l'heure, à l'instant, elle change même le sens du mot s'exposer. On expose une œuvre d'art, on expose un tableau. Là non, elle s'expose elle. Elle s'expose elle comme un art vivant, un art interpellant, et elle s'expose au danger. Elle s'expose au danger du regard, de l'incompréhension, de l'agressivité. Donc elle fait sortir de nous ce qu'on a de meilleur, mais aussi de pire. Et donc je pense que ce qu'elle a à nous dire, c'est que nous sommes humains dans tout ce que, dans tous les excès que ça peut comporter, mais moi, j'arrive avec mes blessures, avec ma nudité, très souvent. Et si vous me respectez, ça veut dire que vous êtes sauvés d'une certaine manière, parce que vous vous sauverez aussi.
Vous pourriez, vous, exposer votre corps de cette manière-là. Vous comprenez qu'on mette son corps dans la balance, voire au milieu de ce carré, si on reprend la forme choisie aussi dans le film The Square, qui avait été consacré par une Palme d'Or à Cannes.
Oui. Je le comprends. Je pense que je n'aurais jamais ce courage. Je pense qu'il faut un courage insensé. Il faut venir de très loin pour réussir cela. Elle venait de cette Serbie communiste avec la liberté surveillée. Elle a compris que la liberté surveillée n'était pas la liberté. Elle a commencé par peindre des tableaux, j'allais dire, d'une facture très classique. Et si elle a fait ça, je pense, c'était pour précisément sortir du cadre et non pas choquer. Je ne crois pas que c'était choquer au sens de l'art du scandale. Il n'y a rien de gratuit. Ce que je pense que dans cet art-là, c'est qu'il est signifiant en tout. Et c'est ça qui le rend profondément à la fois respectable et bouleversant.
C'est une invitation à sortir du cadre, une invitation à faire don aussi de son temps sans se toucher, sauf du regard. Marina A, c'est le titre de votre nouveau roman. Éric Fotorino, vous êtes notre invité jusqu'à 12h30. Oh, oh.
Yeah. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these niggas be at when they said they doing all this and all that? Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib and sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that nigga songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap, ayy. Shawty come sit on my lap, ayy. They saying Drizzy just snap. This in between us is not like a store, this isn't a closable gap, ayy. I see some niggas attack and don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these niggas be at when they said they doing all this and all that?
I'm in the trenches, relax. Can you not pedal a boy in the club? Cause we do not listen to rest. We in Atlanta, I buy her wig. She telling me Tay is the best. Point at the nigga who act like a killer, but you only one from the net. I'm like the baby, I'm not just a rapper. You play with me, you gon' get stretched. Bring Drake to the hood. Surround Drake, round Drakes. Even though I got a case, I'ma do what it take.
And I never been embraced, and the money's hard to make. So I bet they're on their face right now.
France Culture. La Grande Table, Olivia Jesbert.
Et c'est Drake sur France Culture, le rappeur-compositeur canadien qui est l'artiste le plus écouté sur Spotify, loin devant Rihanna. Son nouvel album est sûrement le plus attendu de cette rentrée. Il s'appellera Certified Lover Boy. Et on commence et on ouvre cette année donc avec ce titre qui annonce un peu la couleur, j'espère. Laugh now, cry later, ris maintenant, pleure plus tard. C'est une bonne résolution, non, ça, Eric Fotorino? On remet les larmes à plus tard.
Oui, c'est vrai. Et en même temps, je pense que quand on tourne une page, quand on veut tourner une page, il ne faut pas la déchirer, il faut l'avoir bien lue avant. Et je pense que s'il y a des leçons à tirer de tous ces mois qu'on a vécu et qu'on vit encore, c'est qu'il y a une part en nous, il y a une part dans nos vies qui est incompréhensible et qu'il faut vivre avec cette part de doute et d'incompréhension. Et d'ailleurs, ce que le narrateur de Marina ne comprend pas bien, c'est que ce qu'il dit à la fin, c'est que finalement, il n'a jamais été visité par le doute. Et c'est ce doute qui fait qu'à un moment donné, la fissure s'ouvre et que par cette fissure, c'est pas moi qui l'ai dit, on peut faire rentrer de la lumière et la lumière de l'autre dans sa différence. Je crois que c'est ce qui nous manque le plus, c'est ce qu'on accepte le moins aujourd'hui.
Vous êtes le patron du 1, Eric Fotorino. Il était donc tout logique qu'on commence cette année avec vous, que vous soyez notre invité numéro 1 de cette rentrée d'hiver. L'année 2020, elle a commencé sous le signe du rat. La diplomate Sylvie Berman le raconte dans les colonnes du 1, le dernier numéro. Numéro de fin d'année qui retrouve Wuhan, la ville où tout a commencé. Cette Chicago de l'Est aux airs de Gotham City pour l'écrivain Alexandre Labrouffe, auteur lui de Un hiver à Wuhan chez Vertical. C'est aussi la ville natale de la romancière Fang Fang, à qui vous donnez de la place hein, aussi oui. Dans un additif.
C'est une déclaration hein, ouais. D'amour au Yangtze. Elle dit qu'on ne peut pas comprendre Wuhan si on ne s'assoit pas au bord du Yangtze, qu'on regarde les fleuves qui se mélangent.
Pourquoi avoir choisi de finir l'année en revenant à Wuhan, la métropole, cette métropole industrielle chinoise hein, qui a vu naître le nouveau coronavirus?
C'est ça. Ben voilà, vous avez la question, c'est la réponse. C'est-à-dire que j'avais cette curiosité de où ça a commencé. Et Wuhan, finalement, qui est allé à Wuhan? Et on se rend compte, évidemment, comme toujours quand on creuse, qu'il y a énormément d'histoires. Mao, c'est quand il s'est baigné plusieurs fois dans le Yangtze, il a traversé le Yangtze pour montrer sa force, c'était à Wuhan. Des photos extraordinaires de Marc Riboud, avec notamment celles que connaissent sûrement les auditeurs, où on voit une grande statue de Mao avec le bras devant dressé et les fumées d'usines qui vont dans la même direction, comme s'il indiquait où est-ce que la production industrielle doit aller. Et puis, ce texte d'Arnaud Miguet, le correspondant de France Télévisions, France 2, France Télévisions...
C'est littéralement confiné, enfermé dans...
Voilà, 133 jours, on a titré 133 jours avec un chat, un chien et la peur au ventre. Et ce qu'il raconte est tellement saisissant. que voilà, j'avais envie de plus de mots sur ce lieu qui finalement marquera l'histoire de contemporaine.
Qui est vraiment allé à Wuhan? Pas les experts de l'OMS, en tout cas. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre pour trouver la porte de sortie. Il faut revenir à l'entrée de toute cette affaire.
C'est ça. Je trouvais qu'il y avait là, et d'ailleurs, je ne sais pas si on a les réponses, mais enfin, on a quand même une vision beaucoup plus complète, et pas plus rassurante, de ce qu'est la Chine d'aujourd'hui à travers Wuhan.
Alors le 1 revient en kiosque mercredi, sur quel fait d'actualité vous allez commencer cette année 2020, Eric Fauteuil?
Alors finalement, on aurait voulu le faire en fin d'année, mais chaque semaine suffit sa peine. Donc grâce à Robert Solé, on est parti faire un très grand bilan des printemps arabes 10 ans après. Voilà. De l'Égypte à la Tunisie et bien d'autres pays.
Et on en reparlera aussi sur France Culture durant tout ce mois de janvier, puisqu'il y a cette date anniversaire. Oui. Donald Trump poussé vers la sortie, le Congrès a rejeté son veto sur le budget de la défense, gros revers de sa majorité. Vous avez lancé avec François Bunel la revue America, qui devait s'arrêter au bout d'un mandat. Vous vous étiez fixé 4 ans pour raconter l'Amérique. Il reste un 16e et dernier numéro, si vous tenez parole, avant la fin de l'aventure.
Nous tiendrons parole. Le 16e et dernier numéro a été bouclé pendant les fêtes et il sera dans les kiosques et les librairies le 20 janvier. Et effectivement, ça fera 16 volumes de cette Amérique. On a essayé de patrimonialiser ce présent-là avec beaucoup d'auteurs, beaucoup d'écrivains, américains en particulier. Et je pense qu'on a aidé à éclairer ce que pouvait être l'Amérique, et sans être justement manichéen, et montrer que Trump, c'était aussi l'Amérique, même si c'était pas nécessairement l'Amérique qui nous plaisait.
Pas de regret, parce que c'était quand même une très belle aventure éditoriale qui a très bien marché. Oui. Vous sabotez un peu, là, non? Pourquoi vous avez fait
non,
cette promesse?
Je pense que c'est plus important les choses qui marquent que les choses qui marchent. Là, on a eu la chance qu'elle marque et qu'elle marche. Tant mieux, ça veut dire que on peut, quand on fait ce métier de journaliste, encore inventer des choses.
Et jouer avec le temps aussi, se réapproprier le temps.
Sur un mandat, après un mandat américain, 4 ans.
On revient à cette notion du temps qu'exposait Marina Abramović à travers ses performances. C'est un portrait, un dialogue, un échange, ou plutôt une confrontation entre votre narrateur et elle, qui nous fait réfléchir à la place de l'art dans nos sociétés. Ce nouveau roman, Marina A, vient de paraître chez Gallimard. Merci beaucoup, Eric Fauteuil, d'avoir été avec nous.